Je vais passer sur ce que j'avais l'intention de dire pour ne pas me répéter par rapport à mes camarades. Mais je pense que c'est bien si on dit qu'il faut aller vers les quartiers populaires pour profiter du mouvement des Gilets jaunes, de faire vraiment le boulot nécessaire pour aller au-delà de ce que nous, je veux dire, ce dont nous sommes conscients, nous ici dans cette salle, mais pas forcément les gens autour de nous. Parce que, comme vous le savez, l'État et je veux dire, le pouvoir et tous ceux qui lui sont acquis qualifient Georges de terroriste, puisqu'il est accusé de complicité dans l'assassinat d'un diplomate américain et d'un membre du Mossad, spécialisé, service secret israélien spécialisé, entre autres, dans les exécutions extrajudiciaires. Et pour les gens, ça, le mot terroriste, ça ne les choque pas, parce qu'on a tellement, ils ont tellement eu l'habitude d'entendre que le mot terroriste était réservé à des individus ou à des groupes, à des petits groupes, mais jamais, en aucun cas, à l'État, quelle que soit la terreur exercée par les États d'une manière générale, que ce soit lorsqu'ils bombardent des populations civiles, lorsque ils affament et font mourir 550 000 enfants en Irak avec un embargo économique, quand ils torturent les enfants palestiniens, et, etc., quand ils maintiennent un camp de concentration depuis 12 ans. Omar nous a parlé de l'âge de M. Macron, etc. Mais y compris quand on n'était pas né, on nous demande le devoir de mémoire en permanence par rapport à des faits, n'est-ce pas, que nous n'avons pas vécu. Donc, ce n'est pas un problème de son âge à M. Macron, ni de quand il est né. Donc, je veux dire, un camp de concentration, c'est un camp de concentration. Et si on ne dit plus jamais ça, on ne laisse pas et on ne continue pas, on ne ferme pas les yeux. Et on ne collabore pas avec des gens qui sont des gardiens de camps de concentration. Donc, je crois que c'est très très important par rapport, Georges, on est nous ici tous, c'est une évidence pour nous que c'est pas un terroriste mais un résistant, de la même manière que les Palestiniens et les résistants palestiniens dans les prisons dont on a parlé, qui sont condamnés à perpétuité ou à des dizaines d'années de prison, nous on en est convaincus. Mais les gens ne le sont pas nécessairement. Et c'est en ce moment, il commence à y avoir un début de prise de conscience, notamment avec les Gilets jaunes. Et moi, je salue ce mouvement également, parce qu'il commence à prendre conscience de l'arnaque générale entretenue par les médias. Et donc, je pense, dans ce contexte, c'est très important de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'est le terrorisme et que, effectivement, où est la violence? Qu'est-ce que c'est que la violence? Est-ce que, je veux dire, des gens qui ont travaillé, qui ont sué leur plus-value toute leur vie, les obliger à faire les poubelles des supermarchés pour pouvoir manger, est-ce que c'est pas une violence? Est-ce que les gens qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont pas les moyens de se payer des retraites de luxe et qui finissent dans des EHPAD où le personnel en nombre insuffisant les traite comme des nombres et leur ôte toute dignité parce qu'on leur explique qu'il ne faut pas passer plus d'une minute pour changer une couche et que si tu parles en même temps à la personne, ben ça va pas. Je veux dire, ça, c'est une violence et les gens en ce moment sont en train d'y réfléchir. Donc je crois que, voilà, moi je suis actuellement poursuivi en justice pour apologie de terrorisme parce que j'ai déclaré publiquement que non, Marwan Barghouti et non, le Hamas n'étaient pas des terroristes mais sont des résistants et que les terroristes, c'est l'État d'Israël. Je suis poursuivi en justice, bien entendu, vous l'imaginez bien, c'est une initiative qui part du lobby israélien, pour ne pas le citer, M. Golnadel, donc l'ami de la LDJ, je veux dire, un des plus fascistes des sionistes que nous avons en France, mais vu que l'État français fait des procès aux municipalités qui demandent la libération des prisonniers politiques palestiniens, qui ont demandé y compris la libération de Salah Hamouri, qui a fait des procès à ceux qui ont demandé la libération de Georges Abdallah. Je crois qu'il est vraiment important de se rendre compte que la France vraiment joue au niveau de son gouvernement, de son pouvoir, un rôle, je dirais, très très important dans la collaboration avec le terrorisme israélien. Et déjà, en 2000, je crois que c'était 2008, nous avons été, notre association Euro-Palestine a été poursuivie en justice pour apologie de crimes de guerre et injures à l'armée, pour avoir écrit à plusieurs reprises que les troupes françaises faisaient, je veux dire, du terrorisme en Afghanistan, non seulement en allant faire de la soi-disant ingérence humanitaire ou autre, mais en bombardant des populations civiles. Et quand il y avait eu une dizaine de morts, je ne sais pas si vous vous souvenez, de soldats français, tout d'un coup, les gens s'étaient aperçus qu'il y avait des troupes françaises en Afghanistan. Ils ne le savaient même pas. C'est pour dire, si vous voulez, le chemin que nous avons à faire pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe, ils commencent à comprendre un peu ce qui se passe ici, et pour élargir effectivement leur champ de connaissances. Nous avions eu un procès parce que nous avions non seulement condamné, dénoncé l'envoi de troupes françaises en Afghanistan, mais qu'on avait été particulièrement outrés qu'on nous explique que si ces soldats étaient morts, c'est parce que, n'est-ce pas, les fourbes afghans avaient monté des embuscades, alors que quand même nos courageux, vaillants, nobles soldats, eux, ne bombardent que à 3000 mètres de haut de leurs avions, et que là, c'est pas du terrorisme. Le terrorisme, ça pouvait être que celui des Afghans qui se défendaient contre notre invasion. Bon, le procès, nous l'avons gagné en première instance et en appel. Et là aussi, c'était sur un signalement, une demande du lobby israélien, du CRIF pour ne pas le nommer, qui avait demandé à l'État français, je veux dire, des antisémites parmi vous diront peut-être qu'ils sont partout, mais je veux dire que voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Et donc, je crois qu'il est vraiment important que nous remettions les choses à leur place et que nous ne laissions jamais, quand on parle de la violence ou du terrorisme, les gens croire que c'est uniquement, parce que c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on voit à la télévision tous les jours, que ça peut être que des individus qui exercent la terreur et pas nos États. Alors, je ne sais plus ce que je vais vous dire, mais oui, par rapport à cette habitude, bien entendu, logique, perverse, mais logique, de la part des marchands de canons et de tous ceux qui ont intérêt à créer un maximum de chaos dans un maximum de régions, la stratégie du choc très bien expliquée par Naomi Klein, nous, par rapport à cette perversité, c'est vraiment important que nous soyons présents pour en discuter. Parce que si déjà cette notion qui vous paraît évidente, que le terrorisme, c'est d'abord le terrorisme des États, et de pouvoir l'illustrer, l'expliquer, si on n'arrive pas à faire passer ça dans la tête des gens, Georges Ibrahim Abdallah, ça restera quand même un concept pour militants dans des salles comme aujourd'hui, et pas quelque chose qui va vers le grand public. Donc, je crois que les gens sont en train de se rendre compte, y compris dans les manifestations, ou même quand ils manifestent pacifiquement, on ne peut pas supporter que des gens qu'on avait réussi à reléguer dans les fameux quartiers populaires ou dans ces villes sinistres et sinistrées où ils n'ont plus ni de commerce ni de services publics, que ces gens osent venir dans les quartiers chics de la capitale. Alors, on croyait s'en être débarrassé, ben non, les voilà qui arrivent. Et là, si vous voulez, la notion de violence, qui est du côté de l'État, elle est en train, en ce moment en France, de prendre corps, et je crois qu'il faut en profiter pour, justement, dans ce contexte, parler de Georges et parler de qu'est-ce que c'est le terrorisme, etc. Donc, moi, je voudrais dire un dernier petit mot sur le problème de la violence qui ne fait pas toujours consensus entre les militants. Il y a effectivement ceux qui se disent pacifistes, qui pratiquent la désobéissance civile, mais qui disent qu'on ne peut pas, il ne faut pas se laisser aller à la violence, avoir recours à la violence. Il y a d'autres militants qui estime que seule la violence est révolutionnaire et qu'on ne pourra changer les choses que par la violence. Alors, je pense que si on pose la question en termes uniquement idéologiques, c'est très difficile pour les gens de s'y retrouver. Moi, je crois qu'il faut vraiment la poser en termes stratégiques. Et notre modeste expérience en tant qu'Euro-Palestine, qui existe depuis 17 ans, c'est, je veux dire, et qui sommes des pratiquants de la désobéissance civile, pour donner juste deux exemples où ça, pour dire que ça peut marcher et ça parfois c'est un échec. Voilà, en 2005, lors de l'annonce de la venue de Sharon en France, nous avions décidé de faire quelque chose de très spectaculaire et à une cinquantaine de personnes, nous nous étions couchés sur la rue, sur la chaussée, à l'endroit où la circulation est le point le plus névralgique de Paris, c'est-à-dire le carrefour Rivoli-Sébastopol, pour ceux qui connaissent. Et de ce fait, nous avions totalement bloqué la circulation dans Paris pendant plusieurs heures, au point que les flics ne pouvaient pas arriver en voiture pour nous déloger. En revanche, sont arrivés en moto quelques journalistes des grandes chaînes de télévision qui ont réussi donc en moto à se faufiler et à venir jusqu'à nous et qui nous ont interviewés pendant qu'on était couchés devant les bus et devant les voitures. Qu'est-ce que vous voulez, c'était quoi vos revendications, etc. Ah oui, c'est intéressant. Eh bien, quand ils sont retournés dans leur rédaction, leur hiérarchie, ils avaient les images, ils avaient le son, ils avaient tout, c'était quand même... Hein, ils n'ont pas passé une seconde, pas une image de ce qu'on avait fait. Parce que, ben voilà, je veux dire que une action, elle peut être spectaculaire, elle peut être intéressante, etc. Avec ce que sont les médias aujourd'hui et le verrouillage qu'il y a par rapport à tout ce qui touche à la Palestine, eh bien, on a fait donc un flop. Parce que, je veux dire, on ne faisait pas uniquement pour se donner bonne conscience, mais pour avoir un impact médiatique. Dans d'autres situations, et notamment lorsque, à plusieurs reprises, nous nous sommes enchaînés à l'intérieur de la Fédération française de foot à Paris pour protester contre l'emprisonnement notamment de Mahmoud Sarsak, jeune footballeur de Gaza, qui avait été kidnappé au passage d'Eretz alors qu'il voulait aller jouer en Cisjordanie, qu'il avait d'ailleurs toutes les autorisations et les permis, mais il a été kidnappé. Et personne n'a su ce qu'il est devenu. Et en fait, il était emprisonné, et malgré une grève de la faim très longue qu'il a fait de 66 jours en prison, personne ne parlait de lui. Bon, et bien l'action qu'on a menée et a fait que quand même l'AFP s'est déplacée, des journalistes se sont déplacés, qui a eu des articles dans la presse, que du coup Eric Cantona est monté au créneau, que du coup ça fait dans le milieu du football un peu désordre, d'autant que les journalistes sportifs sont moins, je dirais, empoisonnés et intoxiqués que les journalistes qui couvrent les sujets politiques. Et finalement, on a obtenu la libération de Mahmoud Sarsak. Voilà, c'est pour dire que c'est pas toujours évident de savoir ce que ça va donner, mais pour être... et c'est pareil, je pense, pour la violence. On prend les manifestations en ce moment. Les manifestations, les gens ne savent plus comment faire. Quand ils font une manifestation, je dirais, pacifique, eh bien, il n'y a pas de heurte, même s'ils sont très très nombreux, il ne va pas y avoir d'image, sauf que maintenant la police, à chaque fois, au moins en fin de manifestation, comme tout à l'heure, comme ça s'est passé place de la République, se débrouille pour, avec les gaz lacrymaux, les grenades assourdissantes, faire en sorte d'avoir quelques images de violence pour la télévision. Mais quand il n'y a pas de violence, bah, personne ne va en parler. Et puis quand il y a de la violence, ça va faire peur aux gens, qui ne vont pas avoir envie d'aller à une prochaine manifestation, de peur de perdre un œil, une main, de se retrouver en garde à vue, ce qui est que moyennement attractif. Et donc, le problème, je crois, c'est vraiment de réfléchir toujours en termes de... C'est pas nous, je veux dire, c'est pas à nous de prendre des coups, c'est à nous d'en donner. Donc, c'est pas le problème, c'est pas, je dirais, de s'en prendre plein la tête, c'est de réussir à avoir un rapport de force. Et la violence est intéressante à partir du moment où il y a un nombre critique de personnes qui sont capables de l'exercer, qu'il y a une prise de conscience donc, dans la population, que quand, je veux dire, on veut toucher au système, forcément, on aura en face de nous de la violence, parce que les gens qui exercent le pouvoir et qui ne vont pas lâcher leur bien, leur propriété, tout ce qu'ils ont, tous leurs privilèges comme ça, vont de toute façon nous opposer tout ce qu'ils peuvent nous opposer, et que ce soit donc la police, l'armée, les prisons, tout ce qu'on veut, et l'invalidité ou la mort. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être capable d'évaluer à différents moments qu'est-ce qu'on est capable de faire et où en sont les gens dans leur tête et dans leur compréhension du système pour que ça ne les refroidisse pas et qu'il n'y ait pas des martyrs qui simplement... Voilà. Donc moi, je crois qu'on voit et on l'a vu parce que je veux dire, la non-violence, Gandhi, ça a marché, ben, parfois ça marche pas, la lutte armée, ça peut marcher, et des fois, bon ben, on l'a vu avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, ils ont tout essayé, vous le savez bien, je veux dire, ils ont essayé la désobéissance civile, les sabotages, les grèves, la lutte armée, etc. Et puis, il y a un moment où ils se sont dit que la stratégie, ça allait être d'appeler au boycott. Donc moi je crois que, je suis contre un peu le dogmatisme dans ce domaine-là, et je suis pour qu'on soit capable, nous, de raisonner en fonction du rapport de force et de la manière dont la situation évolue, et je vous remercie.